grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous et moi sommes tous nés d'une rupture, séparés du ventre maternel, projetés dans un monde nouveau, plus froid et plus hostile. C'est la rupture matricielle, la première d'une longue série. Ruptures amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, ruptures avec son ancienne vie, sans oublier les deuils, les accidents et les maladies. Depuis toujours et jusqu'au bout du tunnel, les ruptures rythment nos vies. Nous verrons de quelle façon elles nous transforment en profondeur, avec un focus ce matin sur la séparation amoureuse. De quelle façon ce cataclysme intérieur nous affecte-t-il d'un point de vue physique et psychologique? Nous rend-elle vraiment plus forts, hein, ces ruptures? Qu'apprend-on vraiment de ces déchirures de vie? Comment accepter et surmonter la violence du manque? Élément de réponse avec la philosophe Claire Marin et l'écrivaine Colm Schneck et comme tous les mardis, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Et vous, racontez-nous comment une rupture vous a transformé en profondeur? Comment avez-vous surmonté ou pas la douleur physique et psychique d'une séparation? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Sophie Cadalène.
Bonjour Ali.
C'est vous qui assurez les choses vues cette semaine. La psychanalyste que vous êtes est évidemment inspirée par le thème de la rupture.
Oui, et puis je vais revenir sur celle dont vous avez parlé, effectivement, la rupture originelle. Première rupture amoureuse.
A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali Rébéi.
Bienvenue à nos invités. Bonjour Claire Marin.
Bonjour.
Vous êtes professeure de philosophie en classe préparatoire, membre associé à Normal Sup et vous publiez aux éditions de l'Observatoire Rupture avec un S en parenthèse. Bonjour Colm Schneck.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine et documentariste et vous publiez un beau livre chez Grasset, La tendresse du crawl, le court récit d'une histoire d'amour et d'une rupture. Alors le petit Robert de la langue française nous dit qu'une rupture, c'est la division, la séparation brusque en deux ou plusieurs parties. C'est aussi l'interruption, la cessation brusque de ce qui durait, synonyme fracture, déchirure, arrachement, cassure, coupure, mais également changement. Claire Marin, vous rappelez dans votre beau livre également que la rupture n'est pas une coupure franche, bien droite, nette.
Oui, je voulais insister justement sur la différence entre rupture et séparation, parce que dans la séparation, l'étymologie, il y avait le dit, hein, il y avait deux parties qui se divisent et chacun retrouve finalement son intégrité quand je sépare deux parties autonomes. Alors que dans la rupture, à mon sens, s'il y a violence, c'est parce qu'il y a eu mélange. Parce que à force de vivre avec quelqu'un, j'ai adopté sa façon de penser, parce que il y a une espèce de chorégraphie des corps au quotidien qui s'est installée, et c'est pour ça que la rupture, elle est violente, elle est déchirure, c'est que un mixte s'est formé et que il est violemment parfois donc déchiré.
Vivons-nous dans une époque de la rupture dans tous les domaines de nos vies?
Je crois que ce qui est caractéristique effectivement de notre époque, c'est que les domaines où la rupture est possible se démultiplient, que on manque peut-être, ou on peut avoir le sentiment de manquer de domaines où il y a une stabilité, une continuité presque assurée, même si c'est évidemment une forme d'illusion, mais on est de plus en plus fragile dans son travail, dans son couple, dans ses croyances aussi, les idéologies auxquelles on adhère, etc. C'est comme si tous les domaines étaient devenus un peu plus incertains et fragiles et que les ruptures se démultipliaient sur les différents plans de notre vie.
Pas de vie sans brisure ?
Non, je crois pas. À commencer par celle du début dont vous parliez en introduction, mais je crois effectivement qu'il y a une multiplicité de ruptures, certaines qui sont insensibles, qui se font presque à notre insu, et puis des grands moments de faille, de fracture, inévitablement.
Alors pour vous, qu'il s'agisse d'une séparation amoureuse, d'un deuil, d'une maladie, d'un besoin de changer de vie, les ruptures nous construisent bien plus peut-être que les liens.
Alors, elles nous forcent à une réélaboration, à un questionnement. Donc il y a un travail de construction de soi, ou un moment plus actif dans la manière de se définir, dans le meilleur des cas. Je voudrais pas donner l'impression que systématiquement ça nous permet de nous redéfinir positivement. Il y a des moments où la rupture nous démolit, il y a des ruptures dont on peine à se remettre, dans lesquelles on s'abîme d'une certaine manière, donc c'est pas systématique.
Colomb Schneck, les ruptures nous construisent plus que les liens. Vous qui avez présenté une belle émission sur France Inter, les liaisons heureuses.
Oui, je crois que quand il faut parler de rupture, il faut aussi parler des joies de l'amour. Il y a une douleur parce qu'il y a eu une joie avant, il y a une nouvelle harmonie qui elle-même a été créée par une rupture. Quand on parle de la naissance, bien sûr, on se sépare du corps de sa mère, mais on va arriver vers une nouvelle vie, vers d'autres joies, une affection, une tendresse. Dans l'amour heureux, qui ne se raconte peu, parce qu'il n'est pas très intéressant, il y a une harmonie, comme vous disiez, des corps, de l'âme, et puis cela s'arrête, et là, il y a effectivement une grande douleur qui est physique, qui est morale, qui est une remise en cause entière de ce qu'on est. Il faut se réinventer. L'intérêt de la rupture, si on peut dire qu'il y a un intérêt, c'est cette révolution qui va s'opérer. On peut rester figé dans cette rupture, et là c'est catastrophique, on reste dans une espèce de congélateur physique, mental, et on n'avance pas, ou on accepte une révolution. Et c'est la seule façon de s'en sortir, entre guillemets, c'est de se transformer entièrement. Dans le petit récit que je fais, que je viens de publier, La tendresse du crawl, je raconte que cette révolution, elle a été corporelle. Moi qui suis une intellectuelle, disons que j'étais élevée dans une famille où ce qu'il fallait, c'était lire des livres et avoir des diplômes. Le corps n'existait peu. J'ai découvert mon corps à ce moment-là.
Dans votre récit, La tendresse du crawl, vous racontez donc une renaissance grâce à un amour qui survient la cinquantaine venue. Un corps qui renaît dans les bras de Gabriel, un musicien à peine plus jeune que vous. La première fois que vous le croisez, il a 12 ans et vous 15. Vous vous retrouvez 35 ans après, une fin septembre. Vous écrivez « C'est l'amour le plus heureux de ma vie », un amour de 9 mois qui a commencé il y a 35 ans. Avant cette rencontre, belle rencontre, vous étiez habitué aux amours ratés, aux ruptures plus ou moins douloureuses.
Oui, c'est ce que j'ai écrit. J'avais le sentiment d'être la fille la plus larguée du monde. Enfin, mais on a tous ce sentiment quand on se fait... quand une histoire d'amour se passe mal, qu'on est largué ou qu'on part, d'être la seule à vivre ou le seul à vivre cet état catastrophique, alors qu'en fait, c'est quelque chose de universel. Je ne sais pas si autour de cette table, chacun peut... Quelqu'un ne s'est jamais fait larguer ou une histoire d'amour qui se passe mal, même si c'est... J'étais peut-être un peu sévère parce que j'ai eu des histoires d'amour qui m'ont énormément apporté dans ma vie. Mais quand on rencontre un nouvel amour, il y a un sentiment qu'il efface les précédents.
Claire Marin, la rupture amoureuse, c'est une fracture intime qui touche profondément notre identité. Il s'agit d'une blessure narcissique. Vous écrivez que la rupture, c'est une démolition en règle de l'ego.
Oui, je crois que c'est vraiment une expérience catastrophique où le sujet est anéanti, comme Colomb vient de le dire. On a effectivement, en plus, le sentiment d'être absolument seul dans cette épreuve. Et il y a quelque chose, alors la démolition, où on se liquéfie, enfin on perd toute constance, toute identité et puis toute valeur, évidemment. Les métaphores que j'ai empruntées à des romanciers, c'est les images du déchet, le papier froissé qu'on jette. Enfin, tout d'un coup, on est totalement réduit à être un être sans valeur, quoi.
Ouais. Je me souviens d'avoir été, de m'être allongée sur le sol de la cuisine.
Sur le carrelage.
Chez moi, carrelage, nu, les bras. Et voilà, qu'est-ce que je faisais après ça? Rien.
On reviendra tout à l'heure sur la douleur physique de la rupture, mais revenons, Sophie Cadalen, sur la blessure narcissique de la rupture.
Oui, il y a une dimension narcissique dans l'amour. Alors, on utilise ce terme avec beaucoup de réticence et le nez un peu pincé. C'est pas un préjugé, c'est pas un défaut de l'amour. Non, c'est dans le regard de l'autre, on s'aime tellement plus aussi, on existe tellement plus, on est tellement plus vivant, tellement plus dilaté. Et quand l'autre n'est plus, ne nous regarde plus, on est réduit à néant. C'est vraiment l'anéantissement au sens premier du terme.
J'aimerais vous lire le très beau courriel envoyé par Laura. Ma rupture d'il y a quelques mois m'a transformée, entre guillemets, et je m'en serais bien passé. C'est une immense douleur au plus profond de mon être. Après la sidération, le chagrin si ravageur, la culpabilité qui bouffe tout et le manque absolu de l'être aimé. Il y a cette impasse. Comment peut-on aller mieux sans désaimer? Comment vouloir désaimer lorsqu'on a aimé comme jamais et que l'on aime encore la personne qui nous a fait découvrir cet amour puissant, infini et inconditionnel en nous? Comment affronter ce reste de vie en nous qui n'est qu'une survie? On apprend à cohabiter avec ce vide en nous et c'est tout, on fait avec. Claire Marin.
Il y a effectivement, je crois, différentes temporalités aussi de la rupture amoureuse, qui a un passage à vide ou une latence, un moment où on se replie sur soi. Vous parliez à l'instant de dilatation, on est dans l'expérience d'être désaimé, on est au contraire dans la rétractation, le repli sur une espèce de noyau, tout ce qui reste encore un peu vivant en nous. Après, je pense que c'est là on retrouve l'idée des liaisons heureuses. C'est les liens qui se rétablissent autour de notre douleur, avec des personnes qui sont pas nécessairement celles dont on attendait du soutien, qui vont aider à se remettre en mouvement, recommencer à respirer, à s'épanouir un peu.
Sophie Cadalen.
Oui, ce vide va se transformer, il va produire quelque chose. Quelque chose va naître de ce vide. Maintenant, c'est trop tôt, voilà, dans ce côté aigu de la douleur. Et je trouve qu'aujourd'hui, on fait pas assez de place à ces temps de chagrin. Je dis ça souvent à des patients qui sont, voilà, en plein désarroi, en pleine souffrance. D'abord pleurer, voilà. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où on voit rien devant. Il y a ce qu'il y a derrière et qui était formidable. Ça viendra, mais vivre l'instant du chagrin est aussi extrêmement important pour la suite.
Oui, le chagrin est aussi une richesse. C'est pas un moment merdique, entre guillemets, c'est pas un petit moment, le chagrin et la douleur. C'est aussi un grand moment de nos vies. Il faut l'accepter, nous, on n'en veut pas, on veut le fuir, mais il faut l'accepter quand à des moments importants qui nous construisent, nous transforment, il faut les vivre, ces chagrins, effectivement.
Marie-Laure Sonnenschein, de Femme Actuelle.
Oui, là, on parle de la personne qui est quittée, on va dire, de la personne qui subit cette rupture, mais qu'en est-il de celle qui l'a choisie? C'est-à-dire que la personne qui, à l'inverse, va dire, ça y est, je coupe, je romps. Elle aussi souffre. Il y a un corollaire aussi qui est la culpabilité, une espèce de trahison aussi, de sentiment de savoir qu'à l'avance, il va faire souffrir l'autre.
Oui, mais ça, c'était un point sur lequel j'avais insisté. Il n'y en a pas un qui est heureux, joyeux, insouciant, et l'autre qui est réduit à néant. Il y a dans le fait de prendre la décision de rompre aussi une grande douleur, parce que même celui qui part, il sait ce qui a été vécu, la beauté de la relation telle qu'elle a pu être, même si pendant un moment il a besoin aussi de la nier sans doute pour avoir le courage de partir. Mais je crois qu'il n'y a pas de position agréable dans une rupture. Rompre avec ses parents, sa famille, son milieu, même si ça nous libère, c'est aussi très douloureux.
Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose qui me choque toujours. On entend beaucoup parler dans les discours, dans ces discussions que l'on a, les médias aussi, nous rapportent voilà, des ruptures qui seraient aujourd'hui devenues finalement très faciles. On parle beaucoup d'époque zapping, par exemple. C'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends. Alors là, je parle dans l'enceinte du cabinet, mais partout autour de moi. C'est toujours extrêmement douloureux. Je pense que c'est l'épreuve la plus difficile que l'on vit, que l'on revit, que voilà, vivre encore, et qui va aussi nous épanouir à terme. Voilà, on sait pas trop comment sur l'instant, mais je trouve, voilà, que on nie ça. Et c'est encore une fois nier le chagrin qui peut s'accompagner en faisant de cette décision quelque chose de facile, je dirais même de trop facile.
Et c'est ce qui est admirable dans le livre de Claire Marin que vous avez lu.
Oui, j'ai lu, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui.
Allez, nous attendons toutes vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000. Alexia Rivière, Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Leprince.
Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose. C'est pas facile de se dire adieu. Et l'on sait trop bien que tôt ou tard, demain peut-être ou même ce soir, on va se dire que tout n'est pas perdu. De ce roman inachevé, on va se faire un conte de fées. Mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Roméo, Juliette et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes empées, une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petit, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux. Et quand elle va nous voir passer, la patronne du café va encore nous dire salut les amoureux. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien.
Joe Dassin interprétait Salut les amoureux.
Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc ici présent?
Oh que oui.
Grand bien vous fasse.
Je vous déclare donc ex-mari, ex-femme. Vous pouvez vous détester jusqu'à la fin de votre vie.
Sur France Inter.
10h24, comment les ruptures nous transforment-elles? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse.
Ce matin, tu disais qu'entre nous, rien ne devrait être irréparable et qu'on pouvait tout surmonter.
Mais je savais pas encore.
Alors je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen de franchir ce cap. Je n'arrive pas à envisager, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi, tu comprends, sans toucher tes bras, sans voir ton visage et sentir ton cœur. Il est à point, ton cœur et je...
Non, je suis désolée, tu es quelqu'un de totalement différent à mes yeux maintenant. Quand je pensais à toi, je te voyais comme un garçon qui me ferait jamais de mal.
Oh, ça peut pas s'arrêter comme ça, je veux dire...
Je vois pas ce qu'on peut faire.
Scène de rupture entre Ross et Rachel dans la série Friends. Claire Marin, je rappelle que vous publiez Rupture, Colomb Schneck, La tendresse du crawl. Une rupture n'est pas forcément spectaculaire, Claire Marin. C'est souvent, ça peut être, un long glissement de terrain.
Ouais, tout à fait. Ça peut être une petite faille qui progressivement s'élargit. Il y a aussi toute une temporalité intime qui conduit à la décision. Mais avant la décision, il y a tout un travail intérieur qui est en cours. Ouais.
Bonjour Karen.
Bonjour.
Bienvenue, vous appelez de Lille.
Oui, tout à fait.
Alors,
d'ailleurs, je tiens à remercier Marion, juste qui m'a dit qu'il y avait cette émission, même si je voulais plus penser à ma rupture, du coup je repense à ma rupture.
Bon, en tout cas, vous avez l'air plutôt souriante pour quelqu'un qui a rompu il y a 2 mois.
Ouais, 2 mois, 1er mars, ça a été horrible. Je vais essayer de pas pleurer, vraiment, je m'interdis de pleurer. Ouais, je m'étais fixé la date butoir au 7 mai. J'adore le chiffre 7. Et la dernière fois que j'ai vu le garçon, c'était le 7 avril. Du coup, je me suis dit, le 7 mai, j'irai bien. Et du coup, c'est l'objectif que je m'étais fixé. Je l'ai croisé à un concert que je lui avais offert et il était avec une autre femme. Donc, ça a été très, très dur. Mais ça a été un tel choc que je me suis dit, j'arrête de souffrir. Je voulais vraiment arrêter de souffrir.
Karen, pourquoi vous vous interdisez de pleurer?
Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup. Je suis pas du tout quelqu'un qui pleure beaucoup en général et j'ai beaucoup pleuré pendant cette rupture. Et en fait, si vous voulez, j'ai un truc assez particulier, c'est que je suis allergique à mes larmes. Et en fait, quand je pleure, après, ma journée est fichue. C'est-à-dire que je peux plus rien faire.
Comment
et
vous
du
avez...
coup, j'en avais marre. Voilà.
Comment vous avez surmonté cette rupture qui est encore toute fraîche?
Alors, c'est ce que je disais au standard, c'est que, alors, le conseil que j'aurais donné aux gens, c'est que vraiment multiplier les techniques et en négliger aucune parce que chacune ont leur efficacité. Donc, en gros, moi, ça a été la piscine, les livres vraiment positifs, beaucoup chanter. Dès le soir de la rupture, je suis allée au karaoké, je suis allée chanter, vraiment sortir les émotions, beaucoup de musique. Et puis, justement, dans un premier temps, ne pas se refuser de pleurer, beaucoup pleurer, même si ça me gâchait mes journées. Mes amis, mon fils m'a beaucoup aidé et aller voir des très bons films, par exemple le film Green Book, vraiment des choses de qualité en fait.
Et vous nous avez dit hors antenne que vous pratiquiez la méditation également?
Oui, alors ça, parce que j'ai beaucoup passé de temps dans mon lit à pleurer, à ne rien faire. Et du coup, dès que la douleur arrivait, en fait, je me focussais sur... Donc, c'est une méditation que j'ai appris au bouddhisme. Là, ça, je le conseille à tout le monde, c'est de se focusser sur sa respiration du nez. Et en fait, on pense juste à l'air qui rentre et qui sort du nez. Et en fait, ça aide vraiment à ne plus penser.
À moins ruminer.
C'est très, très efficace.
À moins ruminer. Sophie Cadalen, votre regard sur le témoignage de Karen, hein, qui... essaye, et on peut la comprendre, il n'y a aucun jugement à avoir sur ce témoignage, d'évacuer la douleur.
Oui, bah je dirais de manière un peu triviale peut-être, on fait comme on peut, tous, voilà. Chez Karen, il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce d'agitation nécessaire. Voilà,
physique.
C'est physique, il faut que ça aille, voilà, il faut qu'elle pense à autre chose, il faut qu'elle fasse autre chose, il faut qu'elle se concentre sur d'autres choses. Et puis encore une fois, je dirais certains, non, il faut le vivre à fond. Voilà, il faut pleurer, même si on est allergique à ses larmes. Il faut s'isoler, on dit souvent non, il faut voir du monde. Oui, mais il y a des moments, les amis qui vont vous dire allez, ça va passer, on n'a pas envie d'entendre ça. Non, là pour l'instant, c'est là. Il faut
et
le
ça
vivre.
Ça peut être horrible de s'entendre dire ça va passer.
Ah oui. Il faut laisser le temps au temps. Mon Dieu, quelle phrase terrible. Quand on est dans ce temps-là de la souffrance.
Claire Marin, sur le témoignage de Karen.
Oui, mais c'est effectivement, chacun développe ses propres stratégies un peu de survie et on sent bien comment il s'agit de se sentir vivant après un moment qui nous a presque dévitalisé.
Oui.
Voilà, où vous parliez tout à l'heure du congélateur, c'est vrai qu'il y a un moment on est comme figé et froid, on veut faire revenir la chaleur d'une manière ou d'une autre.
Et le sentiment aussi que quand je pleurais, que le chagrin partait dans mes larmes, que de pleurer
c'est une purgation.
C'était une forme d'apaisement, que dans ces gouttes d'eau partait une partie de la douleur et qu'il fallait pleurer. L'autre chose que dit Karen, elle dit qu'elle respire. Il faut trouver un moyen de se remplir à nouveau. À un moment, on a pleuré et on est figé. Et effectivement, respirer, cette chose très simple qui est respirer.
Oui, je crois qu'une rupture se dépasse, se transforme, permet la vie de nouveau et peut-être encore plus, encore mieux quelquefois, si on est réconcilié aussi avec son histoire. Ouais. Sauf qu'on n'a pas les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes rythmes pour cette réconciliation. Quelquefois, il faut détester aussi. C'est pas raisonnable, c'est pas objectif, c'est pas gentil, entre guillemets. Et puis quelquefois, ça vient très vite. Mais il y a un moment donné, en tout cas, il va falloir se réapproprier cette histoire, ouais. L'inscrire dans notre histoire et finalement lui trouver son sens, sa logique.
Claire Marant.
Je pense, oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la place de la colère, qui est aussi un élément qui fait revenir le dynamisme. Et souvent, on a tendance à nous conseiller, voilà, d'essayer de rester un peu neutre, par exemple pour les enfants, des choses comme ça. Mais cette colère de la séparation, je crois qu'il fallait qu'elle trouve un endroit pour s'exprimer.
Oui, la colère et je dirais, se réinventer, ce que je raconte dans la tendance de Kroll, c'est que je suis allée nager. Je suis allée nager et je me souviens que je pleurais en nageant. Et que
ça se voyait pas, au moins.
Ça se voyait pas, il y avait les lunettes. Et très vite, j'ai compris que c'est dans l'eau que j'allais me sauver. On parlait tout à l'heure du corps de la mer. On est dans l'eau, on est dans le corps, dans l'eau tiède. Et que c'est là, c'est dans mon corps, dans cette eau tiède, que je me suis réinventée et que j'ai pu sortir du congélateur dont je parlais tout à l'heure.
Merci beaucoup, Karen, d'avoir témoigné ce matin. Claire Marin, dans une rupture, on souffre psychologiquement, on souffre également dans son corps, dans sa chair. La rupture nous agresse physiquement. Elle fait de nous des êtres brisés.
Oui, il y a des symptômes physiques. Et souvent, on insiste évidemment beaucoup sur le chagrin, etc. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du sevrage, du manque qu'on ressent quand on a vécu des années ou des mois dans une proximité très forte. Tout d'un coup, ce vide ou encore l'absence de voix, ne plus avoir personne à qui s'adresser, qui nous interpelle, qui en raconte sa journée, etc. Il y a vraiment un manque. Et on voit bien comment dans les romans sont décrits ces sensations de brûlure, de picotement, de vide, de cage thoracique compressée, etc. On les a tous éprouvés, ces sensations-là. Donc, c'est pas seulement une expérience intellectuelle ou psychologique.
Et après une rupture, on peut maigrir, on peut grossir, des cernes peuvent apparaître, les cheveux peuvent blanchir, ça laisse des traces, une rupture. Vous écrivez même qu'une rupture peut défigurer.
Oui, bah en m'appuyant sur un texte de Marguerite Duras, mais je crois que ça peut nous faire vieillir précocement, ouais, que la douleur s'inscrit sur le visage comme dans la maladie ou dans le deuil.
Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aussi rajeunir très vite.
Ça, c'est une bonne nouvelle.
L'annonce d'une rupture, hein, c'est souvent, vous l'avez dit, un choc physique, une sidération. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, Colombe Schneck, quand Gabriel, votre amour, vous quitte, vous vous allongez sur le carrelage en attendant que la douleur s'arrête.
Je sais pas, non, c'était pas
si,
ça.
Si, si, vous écrivez, je me suis allongée nue sur le carrelage de la cuisine en attendant que la douleur s'arrête.
Oui, avec sentiment d'être figée quelque part et de ne pas pouvoir aller ailleurs. Ne pas vouloir aller dans une autre vie qui serait sans cet amour-là. Une vie sans ce partage, sans cette présence physique, ces bras qui vous donnent un sentiment, oui, d'accomplissement. Et tout d'un coup, oui, d'être plus rien allongé sur ce sol et ne pas savoir comment avancer après.
Mais vous suppliez Dieu, auquel vous ne croyez pas, de ne pas vous retrouver dans la vie d'avant.
Oui, et on ne se retrouve pas de toute façon dans la vie d'avant, on ne revient jamais en arrière. Et aujourd'hui, 2 ans après, j'ai un sentiment effectivement très fort d'apaisement, de bonheur. Parce que ma vie s'est remplie autrement. J'étais vidée, j'étais figée, et en découvrant que j'avais un corps, une partie de moi-même que j'ignorais, par mon éducation, par mon milieu familial, par la vie que j'ai menée, tout d'un coup, je me suis remplie de façon extrêmement riche, extrêmement puissante, et avec ce sentiment que cette richesse, cette puissance... Donc, quand j'écris, j'ai le sentiment de... Et c'est pour ça que j'aime tant écrire, c'est que c'est un monde que je contrôle d'une certaine façon. C'est moi qui invente l'histoire, les personnages, où va aller l'histoire, plus ou moins, pas toujours, mais quand même, j'invente mon monde. Et quand je nage, c'est une décision que je prends moi, et quand je fais, c'est le crawl que j'ai choisi de faire comme sport, c'est moi qui mène mon corps. Pas toujours, hein, mais peu à peu, j'ai appris à me l'approprier et c'est moi qui me propulse. Et c'est un sentiment extrêmement agréable. Oui.
Claire Marin.
Oui, je crois que le rapport au corps est réinventé, que le corps peut être réinvesti. Alors, soit parce qu'on en découvre aussi la puissance de séduction qui avait été mise entre parenthèses par une relation ou une situation antérieure, soit pour se réapproprier des capacités qu'on n'a jamais utilisées. Mais je crois qu'on peut plus généralement dire que ce qui se passe au moment d'une rupture, quand on a traversé la phase de chagrin, de deuil de la relation, etc., c'est de prendre conscience de tout ce qui était en jachère, des possibilités qui existent en nous mais qui n'avaient pas été développées par la relation antérieure. Et ça peut passer par un réinvestissement du corps, mais aussi par des capacités créatrices qu'on avait mises sous silence dans la relation précédente, des manières d'être, des manières de parler, d'aller vers les autres, etc., qui s'inventent.
Bien souvent, après une rupture, on a du mal à accepter que plus rien ne sera comme avant.
Oui, il y a nécessairement une forme de nostalgie vis-à-vis de ce qui a été vécu auparavant, ce qui est valable pour d'autres ruptures que la rupture amoureuse. Hein. Après une maladie, par exemple, il y a souvent la nostalgie de la personne qu'on était, parce qu'il y a eu on a perdu des choses dans la rupture.
Colombe Schneck, vous écrivez, c'était le paradis et il est perdu.
Oui, il y avait une sorte de monde enchanté. Oui, un monde enchanté. Est-ce qu'il était artificiel? Non, c'était quelque chose de très simple. Un amour heureux. Je dis, ça ne se raconte pas, c'est pas très intéressant, hein, une histoire d'amour heureuse. Qu'est-ce qu'on peut raconter? C'est la vie quotidienne, c'est aller faire des courses, acheter des carottes, enfin, c'est faire une soupe de carottes ensemble, enfin, des choses de cette vie, oui, qui, encore une fois, ne se raconte pas. C'est pas un conte de fées, c'est pas des liens à baldaquin, c'est, ça, c'est les débuts, mais, il y avait quelque chose de paradisiaque dans la simple fait d'une vie quotidienne partagée et heureuse, de rire, de voilà, de choses extrêmement simples. Et effectivement, il est perdu, oui.
Petit François.
Hein.
Vous devez parler des odeurs.
Pourquoi les odeurs?
C'est ce qui est le plus difficile à oublier, l'odeur. L'odeur de transpiration d'un homme sans géranium.
Oui. Extrait du très beau film de Brigitte Rouen, post-coitum, oui. Animal tristé. On l'a dit, hein, Claire Marin, la rupture met souvent dans un état de manque physique, manque de la peau, des odeurs.
Oui, tout à fait. C'est une expérience sensorielle très forte et on sait la mémoire du corps et la mémoire du corps de l'autre, son parfum dont on peut se souvenir des années
très
plus
longtemps.
Tard, ou le son du rire, ou la texture des cheveux, ou la texture de la peau, tout ça, c'est vraiment une mémoire très ancienne et qui ressurgit des fois dans les rêves, par exemple, avec une intensité très forte.
L'homme
Schneck. Oui, moi je dirais que c'était la douceur des bras, d'être prise dans des bras. Avec cette odeur, Brigitte Rouen parle de l'odeur de transpiration d'un homme, de géranium. Effectivement, une expérience sensorielle paradisiaque qu'on pourrait ramener effectivement au bébé dans le ventre de sa mère. D'être dans un cocon très harmonieux, dans lequel on peut, oui, on s'oublie presque.
Claire Marin, les ruptures laissent une montagne de souvenirs douloureux qui s'incarnent dans des choses, dans des objets. Oui. Nous heurtons à des fragments de souvenirs, des lieux, des objets, des chansons. Ça ne cesse pas de raviver la rupture, toutes ces images, ces musiques, ces objets. Je pense à Colomb Schneck, non pas au gaufrier, mais au
à l'appareil à
croque-monsieur, voilà, que votre amoureux vous offre.
Oui.
Voilà, on se heurte, hein, constamment à ces souvenirs.
Le monde devient agressif parce que tout nous rappelle effectivement la vie comme une perdue. Et je crois que le pire, c'est les chansons. C'est de plus pouvoir écouter des chansons parce qu'elles parlent presque toutes d'amour. Et dans cette longue période blanche de chagrin, c'est une grande frustration.
Mais il y a deux écoles. Il y a ceux qui vont éviter d'écouter les chansons qui rappellent le bonheur passé. Et puis il y a ceux qui vont réécouter sans cesse les musiques que l'on écoutait à l'époque de l'amour heureux, Colomb Schneck.
Oui, l'amour en question était musicien, donc il m'écrivait des chansons d'amour. Avec sa voix, il me les chantait, il s'adressait à moi. Et effectivement, j'ai tenté de les réécouter au début. Et puis, non, c'était pas possible. Et donc, ces chansons, je les ai bien cachées quelque part.
Donc, il faut pas d'amour aux musiciens, en fait.
Pourquoi?
Mais quand j'écrivais, il y avait quelque chose d'idée d'une sorte de gratitude. Et donc, de lister tout ce qu'il m'avait offert. Les appareils croque-monsieur, un savon, enfin des choses. Catherine m'a fait relire le livre de Foot Vincent d'Hervé Guibert où il raconte le savon à l'odeur de miel offert par Vincent. Moi, c'est un savon. C'est des choses minuscules mais qui prennent tellement d'importance.
Oui, des choses minuscules, Claire Marin, qui peut-être au moment de l'amour n'ont pas beaucoup d'importance, mais qui
tout
après prennent une signification.
Oui, des galets ramassés sur la plage, des livres évidemment. Et puis même
la brosse à dents qui est toute seule.
Oui, c'est ça. Mais je me souviens de la brosse à dents.
Quand je recevais des cadeaux dès le départ, il m'a offert des cadeaux, mais je me souviens qu'il avait changé. Il m'a offert une boîte, la petite boîte Bibendum, parce qu'il avait changé mon pneu de vélo, et je l'avais gardé exposé sur ma cheminée. J'ai pris la photo comme si c'était des preuves d'un amour extraordinaire, et qu'il fallait en garder les preuves parce qu'on ne sait jamais ce qui allait arriver. J'avais cette inquiétude.
Sophie Cadalen.
Oui, tout ça nous parle de deuil, finalement. Le rapport au corps, ces sensations qu'on trouvera plus, ces odeurs qui nous rattrapent, on vit ça aussi avec la perte d'un être très intime, très cher. C'est vraiment, voilà, souvent le mot deuil est galvaudé, je trouve, enfin il est utilisé à tout va, mais là, vous racontez vraiment cela. Voilà, les objets, les images, les chansons, la peau, les odeurs, tout ça nous rattrape et tout ça ne sera plus jamais rattrapable, justement.
Pourquoi avoir pris Colomb Schneck en photo, le lit défait après l'amour? Et qu'avez-vous fait de la photo après la rupture?
Je les ai gardées, ces photos. Effectivement, il fallait que je garde des preuves. Ouais. Dès le départ, j'avais un sentiment d'incertitude, que ça ne pouvait pas durer, que c'était... Donc, je photographiais chaque objet, je photographiais son corps, je photographiais le lit défait, pour garder des preuves de cet amour. Et je n'acceptais pas l'incertitude de toute vie, de toute histoire d'amour. Ce en quoi la rupture m'a profondément transformée, je dirais, c'est que j'accepte aujourd'hui cette incertitude. Je ne suis plus inquiète. Je m'inquiétais pour tout et rien en permanence. J'avais peur. Je déposais ma fille à la gare et ça y est, j'allais. Bon. Je vivais dans la peur permanente. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je n'ai plus peur. J'ai peur pour des choses qui sont importantes. Mais cette inquiétude qui me poursuivait en permanence, je l'ai abandonnée.
Allez, il est temps de retrouver Les choses vues de Sophie Cadalen.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Choses vues.
Les choses vues de notre psychanalyste Sophie Cadalen.
Alors, comme vous le disiez, Ali, pour introduire l'émission, notre naissance est marquée d'emblée et pour tous par une coupure essentielle, celle du cordon ombilical. Une coupure qui, si elle est nette, sera tout de même notre première rupture. Rupture d'avec le temps d'avant, la vie intra-utérine, afin que commence une autre vie, où mère et enfant se sépareront et ne seront plus reliés par un cordon. Le nouveau-né respire de façon autonome. Cet organe n'est plus nécessaire à son développement. Il pourrait même devenir menaçant s'il était maintenu trop longtemps. Un cordon que symboliquement nous n'allons plus cesser de couper, à coups de ruptures successives. Des ruptures dans l'alimentation, passant du lait au bouilli, puis au solide. Ruptures de rythme selon les âges, selon les périodes, selon les rencontres. Nous vivons en ne cessant pas de n'être plus celui que nous étions. Nous avons quitté le bébé, quitté l'enfant, quitté l'adolescent, autant de départs comme des ruptures d'avec une certaine existence. Mais ruptures aussi avec des personnes, avec des façons d'être, avec certaines idées de soi que les événements ont chahutées. Le psychanalyste Jacques Lacan l'énonce ainsi dans ses écrits. « Il ne s'agit pas de savoir si je parle de moi de façon conforme à ce que je suis, mais si, quand je parle, je suis le même que celui dont je parle. » C'est vertigineux. Et si l'idée du renouveau incessant est intellectuellement séduisante, ce qu'elle ouvre comme abîme d'inconnu nous dérange. Car nous voulons aussi être rangés. Nous voulons retrouver notre place, trouver notre place même, et n'en plus bouger. Nous nous accrochons au mythe de la permanence, du pour toujours et à jamais. D'où le succès d'un moi, comme un noyau irréductible, un fondement ou des fondations, qui se construiraient les 5 premières années de notre vie et ne changeraient pas. Qui tout au plus se bonifierait, au prix de quelques efforts, d'un travail sur soi, comme on dit, qui assurait les « je sais qui je suis, comment je fonctionne », mais surtout les « je te connais par cœur », qui nous protège de l'imprévisibilité de l'autre, amant ou enfant, ami ou collègue. Et voilà bien notre ambivalence fondamentale. Nous voulons du sûr, de l'éprouvé, nous réclamons de la transparence et de la continuité en tout. Mais nous voulons aussi du renouveau, de la surprise, de l'inédit. Nous voulons vivre davantage que survivre. Et pour vivre, il faut consentir à mourir. Sans cesse et sans y penser, souvent, brutalement et douloureusement parfois. Mourir à une certitude de ce que devait être ma vie, le couple, à la certitude aussi de qui je suis ou croyais être. On vient raconter ces ruptures sur le divan. On veut se réparer, colmater les brèches, revenir à qui on était quand tout allait bien. Le retour à un état originel, fantasmé, avant qu'on ne coupe le cordon. Or, le renouveau, ou le possible à nouveau, ne viendra pas de la réparation, mais d'une transformation. Il ne s'agira pas de panser la blessure pour retrouver ce qui était, avant la rupture, avant la perte et la souffrance, mais de finir de rompre des attaches qui ne retiennent plus que des chimères, qui entravent le présent et empêchent l'avenir. Eros, le plus beau des dieux immortels chez Hésiode, est celui qui rompt les membres. Point de désir, donc point de vitalité, sans ces ruptures qui, de toute façon, sont inévitables et indispensables au mouvement de la vie, d'une vie qui ne peut se vivre dans la permanence de l'utérus, même si certaines de ces ruptures, par leur violence, nous figent à leur endroit même. Elles emportent tout l'avant, mais ne s'ouvrent sur aucun après. C'est donc ce qui peut nous arriver de mieux, que ça rompe et continue autrement. Parce qu'il n'y a rien qui dure toujours, comme le chant de Michel Jonas. Des larmes dans la voix, mais sur un rythme sautillant. Non, Il n'y a rien qui dure toujours. Pas même les cathédrales.
Elle le regarde de clair marin.
Oui, vous avez parlé de la coupure du lien ombilical, mais avant ça, il y a la rupture de la poche des os. Mmh. C'est déjà une faille dans l'espèce de bulle de la mère et de l'enfant. Il y a déjà quelque chose de la menace du monde extérieur qui s'insinue. C'est ça le début de la rupture. Mmh. C'est quand, dans la parfaite fusion entre deux êtres, s'insinue quelque chose de l'extérieur qui potentiellement le met en danger.
Mmh. Oui. Allez-y, pardon.
Non, juste accepter cette incertitude parce que sinon c'est la mort. Mmh. S'il n'y a pas de rupture, et ça, je trouve ça très beau. Ouais. Mmh.
Les belles choses vues de Sophie Cadalen à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. De quelle façon une rupture vous a-t-elle transformée? Comment avez-vous vécu la douleur physique et psychique d'une rupture? 01 45 24 7000. De Mac DeMarco.
J'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. Je ne suis pas à la hauteur de tes sentiments.
Grand bien vous fasse.
J'aurais aimé te dire tout cela en face, mais j'ai un déjeuner et te respecte trop pour te quitter par texto. Je t'imagine en train de lire cette lettre.
À lire ébahie.
Tu seras le plus beau souvenir de ma vie. Tu l'es déjà.
Sur France Inter.
11h-10. Comment les ruptures nous transforment-elles? N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Bienvenue Jérémy, vous appelez de Paris.
Bonjour
Jérémy. Alors, vous avez rompu il y a quelques temps?
Alors, ça remonte à très très longtemps. En fait, j'avais rencontré cette personne, j'avais 16 ans, mm-hmm. au lycée. Nous sommes montés à Paris nous installer. Elle est tombée dans une secte que je ne nommerai pas pour pas faire de publicité aux ordures ménagères. Et puis, ils ont tout fait pour nous séparer. Mm-hmm. Et ils y ont réussi. Et à 25 ans, on s'est séparés.
Ouais. Et vous avez 48 ans aujourd'hui.
j'ai 48 ans aujourd'hui. Et je crois que je ne m'en suis, jamais remis. Je n'ai plus jamais été le même. J'ai mon sourire qui est en retard, j'étais créatif, j'étais joyeux et j'ai perdu cette joie de vivre. Alors évidemment, j'ai refait ma vie plusieurs fois, mais il m'arrive encore de rêver d'elle, du monde qu'on avait construit, nos amis communs, notre univers, notre monde à nous. Oui, ça a été, c'est toujours compliqué.
Témoignage très fort, hein, Sophie Cadalen. Jérémy ne s'est jamais remis de sa rupture.
Oui, et puis les circonstances, je pense, sont importantes. Voilà, elle a été happée par une secte. Il y a quelque chose de l'autre histoire. J'ose pas dire autre histoire d'amour, mais quand même, il y a quelque chose de la dépossession. Et ce sont peut-être voilà les ruptures les plus blessantes, voilà les plus empoisonnantes que voilà de celle ou de celui qui justement est happé ailleurs.
Jérémy, vous avez essayé de vous remettre de cette histoire d'une manière ou d'une autre?
Oui, j'ai essayé de me remettre de cette histoire en fréquentant d'autres personnes, en consultant un psy, et effectivement. Mais il m'arrive encore d'en rêver.
Claire Marin.
Oui, je trouve que c'est un témoignage qui est très émouvant, très touchant, mais aussi très juste, qu'il faut entendre ces paroles qui nous disent il y a des ruptures quand même qui nous abîment profondément et qui laissent en nous une fracture. Et puis on entend bien comment les rêves entretiennent aussi cette souffrance avec une grande intensité, une grande violence.
Une auditrice nous demande quelle est la différence entre les hommes et les femmes en matière de rupture.
Bah je crois que là le sexe ou le genre ne change pas grand chose.
Vous recevez beaucoup de lettres.
Oui, bah comme Colombe, on reçoit pas mal de messages de personnes qui ont 22 ans ou 75 et qui vivent le chagrin d'amour avec la même intensité ou qui se souviennent, comme Jérémy, d'un amour perdu il y a déjà longtemps avec beaucoup d'émotion.
Colombe Schneck.
Oui, effectivement, l'âge ne change rien à l'affaire. Hein. L'âge, le genre, le chagrin amoureux est toujours aussi fort et sentiment d'avoir, comme dit cet auditeur, perdu un paradis, il est perdu, il ne reviendra pas, ce paradis.
Merci beaucoup, Jérémy, de nous avoir appelé. Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, on peut aussi se dire que la rupture, on peut la savoir inévitable et en même temps, on a peur de l'affronter, on la refuse. Oui. Je pense au monde professionnel, on s'embête à s'en soudre dans un boulot, on sait qu'on peut pas y évoluer, pourtant on a peur de rompre, de démissionner, de faire autre chose. Dans la sphère amoureuse, c'est pareil, on sait que ça ne va plus et en même temps, on s'accroche, on se raccroche. J'ai envie de vous dire, pour citer un publicitaire célèbre, est-ce que si on n'a pas vécu de rupture avant 50 ans, on a raté sa vie.
Alors moi, je crois qu'on la vit très tôt quand on se fâche avec un ami en maternelle. Voilà, c'est une situation
c'est
horrible, c'est un chagrin énorme et que personne n'arrive à 50 ans sans rupture, je crois.
Sophie Cadalen.
Oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Quelquefois, la rupture, et ça n'est pas rare, je l'entends en tout cas assez souvent, la rupture est plus compliquée que l'histoire qui n'est plus, qui, comme vous le dites, d'ailleurs n'est peut-être plus depuis bien longtemps, qui peut-être d'ailleurs n'a jamais été. Et dans le cas du travail, dans les amours, c'est la rupture qui pose problème. C'est pas ce qu'on va quitter.
Un courriel de Jean-François qui nous dit « C'est comme si j'avais vécu deux coups de poignard début février, début avril, sans parole, uniquement par SMS, et email. Et puis j'ai trouvé la force de proposer de nous revoir afin de clôturer notre relation dans la paix. Un grand moment, des émotions, des pleurs. On s'est revus, on communique, j'ai compris beaucoup de choses et je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, mais toujours aussi amoureux. Elle se rapproche aussi, touchée par mes attentions. Peut-on reprendre la relation et quel piège éviter ? Claire Marin.
Voilà, on est de l'ordre du concept.
Vaste question.
Très personnel. Moi, j'ai peur de devoir répondre que s'il y a déjà eu des gestes de rupture, c'est que c'est un signe quand même assez fort, quelque chose de terminé.
Oui, sauf qu'il peut y avoir justement rupture comme une renaissance. C'est-à-dire c'est une autre relation qui va commencer, ce qui justement n'est pas si facile que ça.
Bonjour Juliette, bienvenue.
Bonjour,
vous appelez de Paris, bienvenue.
Oui, merci beaucoup. Moi, mon témoignage, en fait, c'était sur le fait que j'ai vécu une rupture douloureuse il y a quelques mois, après voilà 7 ans de relation avec quelqu'un que j'aimais énormément. Et mon meilleur ami a lui aussi vécu une rupture, en fait, au même moment, dans les mêmes circonstances. Ça faisait tous les deux 7 ans qu'on était avec l'être aimé. Et en fait, on se soutient beaucoup dans cette épreuve et on s'est beaucoup rapprochés parce qu'on, bah, parce qu'on s'apporte énormément et qu'on vit les choses de manière similaire et de cette même douleur psychique, cette même douleur physique, on la vit à deux, quoi. Donc, c'est une expérience qu'on n'avait pas forcément envie de vivre, mais qui nous rapproche, paradoxalement.
Ça peut nous sauver de l'effondrement, ce que vit Juliette, c'est-à-dire d'être épaulée, aidée, soit par des amis, soit par la famille, soit par des nouvelles personnes.
Oui, surtout, je crois, par quelqu'un qui vit ou a vécu quelque chose de similaire. De la même manière que quand on est malade, parfois on apprécie la présence d'autres malades parce qu'on peut se dire les choses sans faux semblant, de manière un peu trash, directement, etc. Avec quelqu'un qui a aussi vécu une rupture, on peut dire sa colère, on peut dire beaucoup de choses qu'on peut pas forcément dire à ses proches et aux amis qui ont été les amis communs, qui veulent pas entendre certaines choses.
C'est votre cas, Juliette ?
Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut se dire, des choses. On met un peu notre ego de côté quand on est tous les deux. On dit ce qu'on pense. On peut pleurer ensemble. On peut dire notre colère. On peut dire des mots qu'on n'oserait dire à personne. Et on se comprend en fait. On comprend ce que l'autre vit. Les rêves qui nous hantent. Lui, il parle de morsures la nuit parfois qu'il réveille. Et je vois ce que c'est. Je sais ce que c'est que cette morsure dont il parle. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup en fait. De pouvoir parler de tout ça à deux et de partager ça à deux. Et je voulais dire que je l'embrasse très fort, Dimitri. Voilà.
Comment s'appelle-t-il ? Dites-lui à l'antenne.
Dimitri, je t'embrasse fort. Voilà.
Et vous avez dit une très belle chose, Juliette, c'est salvateur, cette entraide. Merci beaucoup, Juliette. Beaucoup, beaucoup de questions, Claire Marin, sur la violence du ghosting. Le ghosting, c'est un mot anglais qui désigne tous ceux qui quittent lâchement, sans laisser d'explication, du jour au lendemain. C'est très violent, ça.
C'est très violent et c'est une forme contemporaine de lâcheté qui a toujours existé, mais qui est aussi favorisée par tout ce qu'il y a d'irréel ou de virtuel dans les relations aujourd'hui. Et on a l'impression que si on disparaît de l'écran, on disparaît de la vie de l'autre, comme si on n'avait pas été touché par sa voix, par son corps, etc. Je pense que c'est aussi une illusion pour celui qui part. Il pense qu'il met un terme de cette manière, en réalité... L'histoire continue en lui, malgré lui, ou en elle, malgré elle.
En quelques mots, pour terminer, quelles sont les vertus essentielles de la rupture ?
Elles peuvent être, mais pas systématiquement, encore une fois. Justement, cette découverte de capacité en soi, d'identité, qui sont les nôtres et qu'on investit, qu'on développe.
Sophie Cadalen.
Oui, je trouve que Colombe l'a très bien résumé en parlant de ces peurs qui ont disparu. C'est peut-être ce que l'on redoute le plus, forme d'abandon, voilà quelque chose qui ne sera plus. Et une fois vécu, peut-être qu'on se découvre justement autonome.
Oui, s'habiter davantage, je dirais. Je m'habite plus aujourd'hui, je suis encore plus moi-même que je ne l'étais avant cette rupture et avant cette rencontre amoureuse.
Merci beaucoup Claire Marin, je recommande vraiment la lecture de votre livre très subtil, très sensible, qui parlera à tout le monde. C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu sur la rupture. Ça s'appelle donc Rupture avec un S et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. Et je recommande également La tendresse du crawl, votre joli récit d'une rupture, Colombe Schneck, 110-115 pages, ça se lit rapidement mais c'est très fort, c'est un concentré d'émotion qui est assez formidable. Merci beaucoup Marie-Laure Sunshine et Sophie Cadalen. Faut-il laisser les enfants s'ennuyer ? C'est notre thème ce matin. On s'intéresse aux vertus de l'ennui, notamment d'un point de vue cérébral. Et vous, laissez-vous vos enfants ou petits-enfants s'ennuyer ? Culpabilisez-vous quand ils ne font strictement rien ? Et quand vous étiez enfant, aimiez-vous vous ennuyer ? 01 45 24 7000. À suivre, Nagui et sa bande originale.